Bon réveil à tous, voici le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. À la une ce matin, plusieurs réouvertures, celles au compte-gouttes dans les collèges des régions les moins touchées par l'épidémie de Covid-19. Cela ne concerne qu'un élève sur 10 en classe de 6e et de 5e. Les élèves handicapés sont les victimes du déconfinement depuis la semaine dernière, vous l'entendrez.
Autre victime de la crise sanitaire et économique, les travailleurs les plus précaires alors que rouvrent aujourd'hui les agences de Pôle emploi.
Les soignants attendent l'exécutif au tournant après l'annonce hier d'un nouveau plan pour la santé qui passe notamment par une revalorisation des salaires, les syndicats sont plus que dubitatifs. La crise sanitaire et économique, mais aussi un projet d'annexion de la Cisjordanie occupée, voilà les sujets brûlants qui attendent le nouveau gouvernement israélien, union de Benjamin Netanyahou et de Benny Gantz après 500 jours de crise politique. Juste après ce journal, scission et scandale au sein de la majorité. Y a-t-il encore un DRH à La République En Marche? C'est la question que posera Frédéric Seitz dans son billet politique à 8h16. Pôle emploi rouvre ses agences aujourd'hui avec une partie des personnels disponibles sur place, mais uniquement sur rendez-vous. Priorité est donnée aux inscriptions pour les nouveaux demandeurs d'emploi et à l'actualisation des situations. Si de nombreux CDI ont pu être protégés grâce au chômage partiel ces derniers mois, la crise économique frappe déjà les travailleurs précaires, affectés également par la réforme de l'assurance chômage. Catherine Pétillon.
Ils pourraient être nombreux à se retrouver sans emploi ni allocation chômage. En temps de crise, les intérimaires sont avec les CDD les premiers touchés. Cette fois, la récession est particulièrement importante. L'emploi des intérimaires a baissé de 37% au premier trimestre 2020 selon l'INSEE. C'est la baisse la plus importante depuis 1990. Philippe Brousse est directeur de la mission locale Nord-Essonne en Ile-de-France et il voit déjà les premiers effets de la crise.
Très clairement, ce qu'on va voir arriver, c'est tous ces jeunes qui étaient plutôt dans une insertion par des missions d'intérim, par de l'emploi direct ou de l'emploi court, qui se sont retrouvés du jour au lendemain sans mission, sans rien. Donc pour peu qu'il n'y ait pas forcément eu de suffisamment de droits acquis, mais il n'y a pas d'allocation chômage, il n'y a pas de possibilité d'entrée d'argent. On a déjà nous des jeunes qui nous ont contactés en disant qu'ils n'ont plus d'argent et qu'ils ne travaillent pas, qui n'ont pas de mission, qui n'ont rien. Alors, comment va redémarrer ce secteur-là aujourd'hui? On a quand même plutôt l'impression que ça va être compliqué. Il y a quand même de l'emploi, mais si vous voulez, foncièrement, on n'est plus du tout dans la même volumétrie aujourd'hui. On n'est plus dans le même paradigme, pratiquement. Donc, tous ces jeunes-là vont arriver avec un besoin, une demande d'emploi.
Demande à laquelle il risque donc d'être difficile de répondre. S'ajoutent à cela les nouvelles règles d'indemnisation du chômage en vigueur depuis novembre dernier. Il faut désormais avoir travaillé 6 mois minimum pour être indemnisé. Le deuxième volet de la réforme, qui prévoit de baisser les niveaux d'indemnisation, a pour l'instant été repoussé d'avril à septembre. Depuis plusieurs semaines, le ministère du Travail annonce l'ouverture de discussions sur l'assurance chômage avec les partenaires sociaux, sans donner de précision ni de date. De leur côté, associations et syndicats appellent de manière unanime au retrait total de cette réforme pour protéger les chercheurs d'emploi et les personnes en emploi précaire face à la crise.
Elle ne touche rien depuis début mars, sans travail ni chômage. Sophie, une guide conférencière qui travaille d'habitude dans les musées auprès de scolaires. Sophie attend avec impatience de pouvoir obtenir des informations auprès d'un conseiller Pôle emploi à partir d'aujourd'hui.
À partir du moment où on a annoncé la fermeture du musée, moi j'ai compris qu'en fait j'avais pas de revenus, zéro revenu pendant un mois et demi minimum. Parce qu'en fait, sans musée ouvert, sans public, il n'y a pas de travail. Là, même avec la perspective que les musées réouvrent, ça ne veut pas dire qu'il y aura des prestations face publique. Donc, on ne sait rien. Et pour beaucoup d'entre nous qui travaillons dans la culture, avec les scolaires, il n'y a pas de perspective de reprise avant octobre. En pleine activité, j'ai un statut qui est précaire, mais qui me permet d'avoir un niveau de vie confortable. Sauf que tout d'un coup, quand le confinement s'installe, il n'y a plus de travail. Donc a priori, pas de chômage. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas cette information-là. En attendant, voilà, rien.
Sophie, une guide conférencière dans les musées, interrogée par Catherine Pétillon. Au chapitre économique encore, l'entreprise de meubles Alinéa dépose le bilan. L'enseigne explique que la crise actuelle du coronavirus est le coup de grâce après des difficultés liées depuis un an et demi aux manifestations des Gilets jaunes, puis contre la réforme des retraites. Chez Amazon, l'heure de la reprise a sonné après l'accord entre 3 syndicats de l'entreprise, CGT, CFDT et Sud, vendredi dernier. Les salariés volontaires vont pouvoir reprendre le travail dès demain avec une journée de formation ce lundi dans les entrepôts logistiques. La reprise également aux États-Unis des 3 géants de l'automobile de Détroit, General Motors, Ford et Fiat Chrysler, qui assurent avoir pris des précautions pour protéger leurs employés. Mais ces garanties sont loin de convaincre les syndicats.
8h05 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. 25 nouveaux foyers de contamination de Covid-19 ont été recensés en une semaine en France.
Mais le système mis en place pour tester, isoler et casser les chaînes de contamination est opérationnel, a affirmé hier le ministre de la Santé, Olivier Véran. Des opérations de dépistage vont donc se poursuivre dans les Côtes d'Armor et dans le Loiret notamment, où au total une centaine de cas ont été détectés dans 2 abattoirs. La faute peut-être à la promiscuité sur les chaînes de travail, mais aussi dans les espaces collectifs comme les vestiaires. L'exécutif qui est attendu au tournant par les soignants, hier dans les pages du journal du dimanche, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé un nouveau plan pour la santé cet été qui passe notamment par une revalorisation des salaires. Un énième plan déplore les syndicats sans impact réel pour améliorer les conditions de travail du personnel et les conditions d'accueil des patients. Bonjour Anne-Laure Jumet.
Bonjour.
Et quelles sont les pistes donc dessinées hier par le ministre Olivier Véran pour soulager le monde hospitalier à bout depuis plusieurs années, on le sait, et mise à rude épreuve encore avec l'épidémie de Covid-19?
Eh bien, il y aura des augmentations de salaire, affirme Olivier Véran, et ce, au-delà des primes déjà annoncées. Et on part de loin. Si on regarde le seul salaire des infirmières, la France est très mal classée au 28e rang des pays de l'OCDE sur 32, avec un salaire d'entrée d'environ 1500 euros. L'objectif fixé par le ministre de la Santé pour les métiers d'infirmiers ou encore d'aide-soignants, c'est d'atteindre un niveau de rémunération correspondant au moins à la moyenne européenne. Mais pour l'instant, on ne sait pas encore à quel horizon et on n'a pas non plus de détails sur l'enveloppe qui sera concédé par le gouvernement. Et la petite musique qui monte n'est pas pour plaire au personnel hospitalier, puisque Olivier Véran parle aussi d'assouplir le cadre des 35 heures pour permettre des heures supplémentaires rémunérées. Voilà qui rappelle le travailler plus pour gagner plus. Ce n'est pas exactement ce qu'on demande, mettent en garde les soignants. Dernière piste, rémunérer davantage les compétences. Des médecins exercent des missions de formation ou de recherche. Ça doit être reconnu, précise le ministre de la Santé. Idem pour une infirmière qui décroche un doctorat. Elle doit voir son salaire augmenter. Voilà qui va servir de base aux discussions qui s'ouvriront lundi prochain au ministère de la Santé avec les partenaires sociaux. Les annonces sont donc, elles, prévues cet été et le gouvernement est sous pression. Syndicats et collectifs hospitaliers réfléchissent en effet à une journée nationale de mobilisation à la mi-juin.
Anne-Laure Jumet, vous signez également ce matin le billet économique qui a retrouvé dans quelques instants sur franceculture.fr. Des tensions à venir entre le gouvernement et les soignants, mais cette fois en Belgique, le syndicat des services publics annonce une grève du personnel dans les hôpitaux et les maisons de retraite à partir d'aujourd'hui, Lax-Milotin.
La première ministre s'est rendue dans des hôpitaux ce week-end pour la première fois depuis le début de la crise du coronavirus. Image marquante, au centre hospitalier Saint-Pierre, le personnel fait une aide d'honneur à Sophie Wilmès en lui tournant le dos. Les médecins, infirmiers, aides-soignants sont épuisés. Il n'y avait pas assez de masques lorsque le virus est apparu et des arrêtés royaux exigent à présent une réquisition d'employés en cas d'urgence, y compris de personnes non qualifiées. Pour Véronique Sabel du syndicat CSC Services Publics, cette décision est une insulte à la profession.
Si on a un deuxième effet Covid-19 dans les semaines à venir, il est clair que ce personnel-là, pour être encore traité comme il l'a été alors qu'il a assumé, il sera plus fidèle au poste. Hein. Ça, c'est plus possible. Hein. Quand on voit ce qu'on reçoit en remerciement, donc un arrêté de réquisition et un arrêté où du personnel non qualifié va poser un acte médical, où est-on, hein ?
Le syndicat a donc lancé un préavis de grève à partir de ce lundi. Pendant un mois, des arrêts de travail d'une heure pourront avoir lieu dans les hôpitaux ou maisons de repos, sans mettre en péril la sécurité et la santé des patients, précisent toutefois les syndicalistes.
Lax-Mi Lota à Bruxelles pour France Culture. Après 1,5 million d'élèves de la maternelle et du primaire la semaine dernière, c'est au tour de 150 000 collégiens de reprendre les cours à partir d'aujourd'hui. Les élèves de 6e et de 5e dans les régions classées en vert, les moins touchées par l'épidémie de Covid-19, pas plus de 15 élèves par classe, toujours, à partir d'aujourd'hui. Et depuis la semaine dernière, priorité devait être donnée notamment aux élèves handicapés, mais la réalité est bien différente, regrette Sonia Aen-Inou, en charge des questions d'éducation à l'UNAPI, l'Union nationale des associations de parents de personnes handicapées mentales et de leurs amis.
Il y a une recrudescence des troubles de comportement par manque de repères. Il y a aussi le rythme quotidien qui est complètement chamboulé et changé. Parce que, bon, c'est comme tous les parents, hein, quand vous êtes en famille, le confinement, Vous n'avez plus du tout les mêmes règles, vous ne voulez pas à 7h du matin, vous n'avez pas du tout le même rythme. Et tout ce rythme-là a été cassé alors que les enfants ont besoin d'une régularité et d'une répétition pour pouvoir avancer dans leur autonomie et dans leur apprentissage.
Sonia Aïnou, en charge des questions d'éducation à l'UNAPI, elle répondait à Kim Kasmi. Ils étaient 350 à Montpellier, 300 à Lyon, des centaines encore à Bordeaux, Toulouse, Montpellier et Nantes. Des centaines de gilets jaunes ont bravé ce week-end l'interdiction de manifester. Un certain réveil des mouvements de contestation sociale venu s'ajouter aux différents recours initiés depuis le début de l'état d'urgence sanitaire. Un réveil assez symptomatique de la crise et de cet état d'urgence inédit, estime Nicolas Hervieux, avocat spécialiste du droit des libertés et professeur à Sciences Po.
On a eu le sentiment que les anticorps de l'état de droit sont revenus à la charge plus rapidement que face à la menace terroriste. C'est-à-dire qu'après une semaine, deux semaines de latence, très vite, les recours ont pu être initiés contre des mesures jugées excessives. Et ce qu'on observe aujourd'hui, maintenant que deux mois de crise sont passés, c'est un phénomène aussi qui est totalement inédit par rapport à ce qui a pu se passer, notamment lors de l'état d'urgence 2015-2017. C'est la résurgence de critiques politiques et institutionnelles très vives. Et je pense que c'est lié justement à la particularité de cette menace, parce qu'elle touche tout le monde. Elle ne concerne pas uniquement une petite catégorie de personnes réelles ou fantasmées, hein, les terroristes barbus dont personne n'a envie de protéger les libertés, et ça touche en plus au fonctionnement même du pays et à l'économie. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que cette crise sanitaire, lorsqu'elle s'est déclenchée, elle a eu un effet massif et déstabilisant pour l'ensemble des personnes et des institutions, mais plus rapidement que face à la menace terroriste, les institutions et les personnes ont mieux réagi pour finalement créer des contre-pouvoirs aux initiatives du gouvernement et du législateur, ce qui est finalement très sain en soi.
L'avocat Nicolas Hervieux, spécialiste du droit des libertés, il répondait à Florence Turme. Au moins 5 personnes sont mortes et 32 autres ont été blessées ce matin dans un attentat en Afghanistan. Une voiture piégée a explosé dans la ville de Ghazni, dans l'est du pays. Cette voiture visait un bâtiment des services de renseignement afghans. Nouveau signe, s'il en fallait, de la recrudescence des violences en Afghanistan, malgré un accord conclu fin février entre les talibans et les États-Unis. Accord qui prévoyait le départ de toutes les troupes étrangères d'Afghanistan d'ici mi-2021. Il aura fallu plus d'un an de blocage institutionnel, 100 jours et des tractations politiques pendant des semaines et des semaines, mais c'est fait. Israël met fin à la plus longue crise politique de son histoire et la priorité affichée de ce nouveau gouvernement, c'est l'annexion de la vallée du Jourdain et des colonies juives de Cisjordanie. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a longuement insisté sur son point dans son discours d'investiture hier. C'était l'une de ses promesses de campagne dégainée lors des 3 dernières campagnes électorales, réitérées devant le Parlement. Donc, cette annonce marque un nouveau tournant dans l'application du fameux projet de paix au Moyen-Orient des États-Unis. De leur côté, les Palestiniens n'attendaient rien de Benjamin Netanyahou. La lassitude est bien installée. Le reportage sur place de notre correspondante dans les territoires palestiniens, Alice Froussard.
L'annexion, les Palestiniens en parlent rarement. C'est une promesse de campagne souvent, mais une réalité qui existe déjà sur le terrain. Pour Hamzé Aouadeh, la trentaine habitant de Ramallah, rien de nouveau dans le discours d'investiture de Netanyahou, mais un coup dur pour la solution à deux États.
Connaissant les pratiques de Netanyahou, on sait qu'il a toujours été contre le fait d'établir un État palestinien. Mais c'est une période assez effrayante. On voit que les choses vont changer très vite. Et on va subir l'annexion de partie vitale de la Cisjordanie.
Sa crainte que personne n'arrête l'actuel Premier ministre israélien, ajoute-t-il, pas même la communauté internationale. Du côté de Jéricho, dans la vallée du Jourdain, il y a déjà des problèmes d'accès à l'eau, des routes que les habitants ne peuvent pas utiliser. La vie quotidienne dans cette ville palestinienne encerclée de colonies est compliquée. Rien ne changera, à part sur le papier, explique Salem Barahameh de l'Institut palestinien de la démocratie publique.
Je viens de Jéricho, et les colonies qui ont été construites dans la vallée du Jourdain ne viennent pas du Likoud ou de la droite. Elles viennent du gouvernement des travaillistes dans les années 70. Depuis des années, Israël annexe de facto et instaure déjà ses lois dans les colonies. Cette fois, cela formalise juste la vision d'un grand Israël.
Pour Saeb Erekat, célèbre négociateur des accords d'Oslo et secrétaire général de l'Organisation de libération de la Palestine, l'annexion veut dire une chose, la paix impossible entre Israéliens et Palestiniens, jamais concevable entre Israël et les pays arabes.
La crise sanitaire et économique sur le bureau encore du Premier ministre Benjamin Netanyahou en Israël. Une crise au menu encore de la réunion virtuelle des 194 pays de l'OMS qui se réunissent aujourd'hui à distance pour la première fois de leur histoire afin de débattre donc de la réponse internationale à la pandémie avec les tensions entre la Chine et les États-Unis, des tensions encore sur les vaccins en arrière-plan de cette réunion. Le temps de ce lundi 18 mai marqué par de la pluie et des orages dans le sud-est de l'Hexagone, du soleil partout ailleurs. Au meilleur de la journée, il fera 22 degrés à Lille et à Limoges, 23 à Pau, 24 à Rennes, à Paris et à Strasbourg, 26 degrés à Marseille, Guillaume Erner.
Merci beaucoup Catherine Dutu. Il est 8h15 sur France Culture. Dans quelques instants, on retrouve notre invité, le sociologue Jean Viard, pour évoquer la manière dont vont se dérouler les vacances cette année, des vacances sous le signe du Covid. Dans 30 minutes environ, vous retrouverez mes camarades de la séquence TTC avec la transition d'Hervé Gardette, la théorie culturelle de Mathilde Serrel et la radiographie du coronavirus de Nicolas Martin. Et dans quelques secondes, un billet politique avec vous, Frédéric Seyss, bonjour.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
Et le thème du jour, Frédéric ?
Couac et déstabilisation qui se multiplient dans la majorité à l'Assemblée nationale, et si tout cela était lié au processus de sélection des députés En Marche en 2017.
Réponse dans quelques instants.